Et au lancement de la patente, il y avait une cinquantaine de personnes et il y avait une cinquantaine de recueils et on leur a donné et on leur a dit, en fait, ce livre-là, il n'est pas à vous.
Je sais jamais trop à quoi le monde s'attend quand ils s'en vont voir un spectacle de contes, ni à quoi ils s'attendent quand ils téléchargent un balado supposé parler de contes. Mais ce que je sais, c'est que je m'appelle Patrick Dubois, je suis conteur et je m'en vais vous parler en long et en large de ce qu'a été pour moi la grande aventure d'être conteur d'histoire. Et vous écoutez « Il était une fois dans l'Est ».
Printemps 2023, on m'a approché, j'ai reçu un appel, j'étais sur la route, m'en allais compter dans un festival, je pense. M'en allais compter. Tout ce que je fais, c'est toujours m'en aller compter de toute manière. Je fais jamais rien d'autre que ça. J'étais sur la route et puis tout d'un coup, paf, le téléphone sonne. Vous comprendrez à ce moment-là que j'avais plus de ligne fixe. J'étais rendu avec un téléphone cellulaire. C'était la directrice culturelle d'une municipalité avoisinante, de la ville de Passepébiac. Elle me contactait parce qu'elle avait un projet particulier pour moi. Elle me dit, Patrick, elle s'appelle Chantal. Elle me dit, Patrick, c'est Chantal. Je savais déjà que c'est Chantal, son nom. Elle me disait pour que je cherche qui parle au téléphone et non pas pour m'informer qu'elle s'appelait Chantal, mais je la connaissais. Je t'appelle pour un sujet, si tu as le temps, Patrick, on aimerait que tu viennes collecter l'imaginaire du village. Je dis quoi? Collecter. Et collecter, j'entends pas par là connecter comme les vieux qui disent veux-tu collecter à télécommande de. Non, collecter comme de attraper. Passer l'épuisette, ramasser les grumeaux, collecter, une collecte de pommes, une collecte de vidange, une collecte de... Collecter l'imaginaire du village. Elle me lance ce mandat-là et une espèce de carte blanche et je le concocte quatre choses, c'est approuvé et ça passe. Et à l'automne qui suit, eh bien, je me trouve à déployer ce projet-là qui s'appelait Chronique de faits d'hier, où est-ce que j'ai passé 10 jours dans le village. La municipalité m'a fait confiance pour ça. Pendant 10 jours, j'allais me promener dans le village, j'allais dormir chez les habitants, faire une tournée de quêteux, mais finalement, on m'engageait pour faire une tournée de quêteux. Et ça, moi, c'était un espèce de climax dans ma carrière. Parce que veux pas, mes tournées de quêteux, c'est quelque chose que je fais, c'est marginal, je veux dire, j'ai jamais reçu d'honneur pour ça. Et c'est une démarche quand même particulière, ça fait peut-être un peu punk, ça fait pas sérieux, quoi, ça fait pas hors contemporain, ça va pas aller dans une galerie d'art, ça. Mais non, tout d'un coup, paf, c'est une municipalité qui dit « Hey, cette démarche-là, elle nous parle, puis on a envie d'offrir ça à nos citoyens. On a envie de leur offrir un artiste qui se promène sur le territoire dans une œuvre à laquelle on peut participer. Parce que tout d'un coup, en recevant ce compteur-là chez vous, ben, t'as participé à une œuvre, t'as participé au fait qu'encore aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des quêteux qui circulent. Et puis nous, à Passepébiac, pendant 10 jours, on en a eu un. » Mais en fait, la tournée de quêteux que je faisais, c'était un véhicule pour moi. C'était ma manière de les approcher pour venir entendre leurs histoires. Et ça, j'ai eu à me gratter à la tête longtemps pour trouver comment je le ferais. On me demande de collecter l'imaginaire d'un village. Mais c'est quoi l'imaginaire d'un village? Eh bien, la prémisse était... Ceux qui savent, savent. La prémisse était bonne, c'est que Chantal m'avait dit, on a fait plein de projets de collecte du patrimoine vivant. On a collecté les vieux noms de famille, l'origine des gens du coin, les vieux métiers traditionnels, les noms de lieux, les lieux dits, et ainsi de suite. Et dans toutes ces collectes-là, qui étaient faites un peu par des ethnologues ou des historiens, historiennes, et bien, il y avait plein de récits qui débordaient. Il y avait plein de récits qui étaient un peu non vérifiables, qu'on ne savait pas si c'était vrai ou pas. Et puis, donc, on ne pouvait pas mettre ça. C'était pas factuel, c'était pas très académique. Mais en même temps, ça revenait souvent. Puis, à un moment donné, on s'est dit Chantal, il faudrait bien faire de quoi avec ça, tous ces petits bouts-là qui dépassent. Pour moi, il y a quelque chose d'important dans ce petit bout-là qui dépasse. Alors, c'est le même que je me suis retrouvé sur le territoire à me mettre à chercher des bouts qui dépassent. Comment tu fais pour que du monde dans un village te raconte des histoires? J'ai eu à peu près 6 mois pour y réfléchir. Je me suis fait une espèce de liste d'épiceries, des lieux où je pourrais croiser du monde puis lui demander des histoires. Mais c'est quand même... Bon, OK, il y a chez l'habitant, ça, c'est une chose. Normalement, ça serait en me déplaçant en autostop, mais dans un village, il n'y a aucune raison de se déplacer en autostop. Ben oui, mais moi, ça ne me parle pas. Alors, évidemment, je me suis noté, OK, bon, je pourrais aller sur le quai parce qu'ici, ben, l'été, ça pêche. Tu pêches le maquereau, puis tu en profites pour jaser avec ton voisin, puis d'y donner 2-3 poissons, puis vide ta chaudière par là, puis ah ouais, parle avec un tel, parle avec un autre. Et les histoires se comptent allègrement. Sauf que moi, ben, paf, on tombait dans le temps de la chasse. On tombait à l'automne. Et alors, la pêche, terminée. Et puis, la chasse, j'avais pas j'avais pas le réseau pour me rendre dans le bois et puis aller à la rencontre des histoires de chasse. Alors, je me suis rabattu sur ce qui était la valeur la plus sûre, l'espèce de perron de l'église d'antan, qui est le Tim Horton. Moi, on m'a dit, le Tim Horton, je lui ai fait de la pub. Je pense que j'ai le droit, c'est comme très positif, c'est pas très diffamatoire. Le Tim Horton à Passepébiac, c'est tellement beau ce qu'ils en ont fait. Autant on a peur pour nos villages d'avoir des multinationales qui viennent s'établir puis qui vont avoir beaucoup moins de cachets. C'est sûr que si t'es une petite, t'es une petite boulangerie dans ton coin, faite pleine d'amour, et puis que paf, t'as un gros commerce qui embarque de même, tu te dis, ça devient impersonnel. En même temps, ça en sera bien ce qu'on... Ça en sera ce qu'on en fera. Et à Passepébiac, le Tim Horton, ça a été investi par une armée de petits vieux. Mais je le dis, là, plein d'amour, ils s'appelaient eux-mêmes les petits vieux entre eux, fait que je l'ai pris. Donc, ça a été investi, c'est le lieu de toutes les discussions. C'en est même une activité culturelle, si tu veux aller s'aîner, si tu veux, va te plugger les oreilles 2 secondes, mange un beigne pendant 1 heure là-bas. Et écoute-les se parler du village en entier, ça n'arrête pas. Alors là, moi, c'était clair que ça allait être en fait mon bureau de travail. Le soir, j'irais dormir chez du monde et puis le jour, je boirais des cafés back à back et j'entendrais des histoires. C'était ce qui se passerait. Sinon, je m'étais noté, bon, va au bingo, il y a des rencontres à faire, peut-être bien le dimanche à la messe, va trouver où est l'église et ainsi de suite. Alors, je suis débarqué à Passepébiac et j'ai fait cette collecte-là et rapidement... Ben, je me suis tourné vers le Tim Horton, sauf que ça donne qu'il y avait moins de monde. Il y avait moins de monde que prévu parce que c'est pas négatif, là, mais ils ont été fermés un petit peu à cause de la pandémie, je pense. Ils ont eu des chiffres moins fiables. Et puis, moi, il y a un petit vieux qui m'a dit, ils m'ont fermé à porte au nez une journée, ils ne me reverront plus jamais là. Fait qu'à cette heure, ils vont au Subway, juste en arrière. Fait que Subway is the new Tim Horton à Passepébiac. Ça a été mon bureau de travail. Et dès la première journée, bon, je me frottais les mains, je me disais, ça y est, je m'en vais rencontrer ma gang de petits vieux. Ils vont être là. Je ne les connais pas encore, mais on a rendez-vous sans le savoir. Je m'en vais le tomber dessus avec mon petit carnet de notes. Puis, fait que je suis toute fébrile. Mon premier matin, je me stationne. Bien sûr, je me tape le nez dans le Tim Horton et puis je me rabats sur le Subway. Et je les aperçois. En rentrant, je vois une table. Ils ont collé comme 4 tables ensemble. Ils ont investi le Subway. L'architecture du mobilier leur appartient. Lâche prise, tu vas te faire mort. T'sais, ils sont là, ils sont une quinzaine assis à une table. Ça jase fort. Et puis je me dis, ça, c'est la source. C'est ici que je m'en vais ramener peut-être bien 100 pages d'histoire, c'est certain. Et... Tout de suite en rentrant, je suis tout énervé. Ils sont là sur ma gauche, sauf qu'à ma droite, il y a une petite table avec 2-3 personnes qui parlent en anglais. Et tout de suite, ça me frappe et je me dis, merde, j'avais pas prévu ça. Moi, j'ai pas demandé à la municipalité, mais il y a plein d'anglophones sur le territoire. Et est-ce que leur imaginaire compte aussi? C'est quoi le territoire vous voulez que je couvre? Je veux dire, c'est vous qui me donnez le mandat. Est-ce que vous voulez juste collecter les francophones ou vous êtes inclusif ou quoi, tu sais. Et puis, en plus, je me dis, merde, moi, je suis capable de collecter en anglais, ça va être une longue semaine, je me débrouille, mais tu perds dans le détail. Et puis, fait que je reste un peu avec ça en me disant, ben je pense qu'en même temps, les anglophones, c'est beaucoup les villages autour. Donc, je gagne un peu de temps, je m'en vais me commander un café et je tends l'oreille pour ma table de 15 bonhommes en me disant, eux, sont-tu francophones? J'espère. Et j'attends peut-être 1 minute dans le fil pour avoir mon café et de toute la minute où j'attends, je comprends fuck all. Je comprends fuck all parce que c'est pas à moi que ça s'adresse, parce que je sais pas de quoi on parle ici, parce que j'ai pas entendu le début de la phrase, alors je sais pas qu'est-ce qui était la fin d'un mot ou le début d'un mot ou le milieu d'un mot. C'est juste une espèce de grosse soupe homogène avec une coupe de grumeaux de temps en temps, mais au point où j'ai aucune idée si c'est du français ou de l'anglais. Et ça aurait fait ça si c'était peu importe le village où ça se serait passé, tu sais. Mais à Passepébiac, ils ont la réputation d'avoir un accent assez fort. En décollant, je me disais, merde, mais C'est une autre langue, quoi. Finalement, je reçois mon café et je m'approche timidement en me disant « Tout se joue ici. Moi, j'ai rendez-vous avec eux, ils ne savent pas, mais chaque jour, pendant 10 jours, m'en vient leur prendre des histoires. Faut pas que je me plante. Moi, j'ai vendu ça à la ville. » Fait que j'approche et il y en a un qui voit que je reste à côté de lui. Il se lève la tête, lève un peu la casquette et il dit « Oui ». J'ai dit « Salut », l'air un peu embêté de celui qui aurait frappé aux portes pour demander de jeter le couvert en échange de ses histoires. Pour ceux qui l'ont déjà fait, vous savez de quoi je parle. Et puis, je dis « je m'appelle Patrick, puis je suis conteur, puis là, la ville m'a engagé pour ramasser vos histoires. » Qu'est-ce qui va se passer, tu sais? Il me regarde un peu, il part à rire, puis il dit « Assieds-toi ici, t'as pas fini avec nous. » Et j'avais pas fini avec eux. Ça a été, mais incroyable. Ça a été mes super partenaires pendant toute la semaine. C'était de toute beauté. Et là, tout de suite, le premier explique aux autres qu'il fait comme « Hey, il coupe toutes les conversations. » Puis là, il me regarde puis il dit « Présente-toi. » Il gère l'affaire. V'là le maître d'œuvre de la patente et je lui explique la même chose. Je suis venu collecter vos histoires. Ben là, quel genre d'histoire? Ben, je dis « Du non vérifiable. » Comptez-moi ce que vous avez à me conter, puis on fera un tri. Des histoires de sorcières, des histoires de maisons hantées, des histoires de ce que tu voudras. Et on fera le tri. En fait, ma méthode était assez simple. Dès qu'une histoire m'était dite deux fois par deux personnes différentes, c'était validé. Moi, c'est tout ce qu'il me fallait. Je voulais que ça appartienne à tout le monde. Dès que c'est pas juste porté par une personne, c'est à tout le monde. C'est parti, ça s'envoie dans le livre. T'sais. Et là, il me contait du stuff. Et en partant, il y a 1000 discussions qui se mettent à table. Bon, c'est sûr que ça active les mémoires. Et puis bon, ils se mettent à parler d'un homme fort. Et paf, les v'là, ils sont 8 en même temps à gérer le bâton de la parole. Il y a une gestion qui n'est pas tout à fait scénique. Là. Ça devient mais cacophonique. Et ils se comptent ça entre eux. Moi, il y a le premier à côté de moi qui me compte du stock, mais d'une oreille, j'essaie d'écouter les autres qui sont en train de dire quelque chose de bien plus intéressant, qu'il va falloir que je mette fin à la discussion que j'ai en ce moment pour le redemander à eux. Et j'ai eu à gérer cette espèce de trafic-là et aussi à assister à du monde qui gèrent eux-mêmes le trafic. T'en vois un qui sortient de parler, un moment donné, il essaie de s'engager dans le trafic, de dire « moi aussi, j'ai quelque chose à dire » et il y a une beauté, il y a une subtilité dans notre capacité à gérer cette scène-là qui est une espèce de scène populaire, une arène où est-ce que chacun va venir présenter son special move, qui va raconter son bout d'histoire favori, qui va compléter. Tu sais, ça te prend une espèce de légitimité pour rebondir sur l'autre. Si tu arrives avec une histoire qui sort de nulle part, tout le monde va faire « Mais pourquoi tu racontes ça? » Tandis que si c'est pour faire du pouce sur ce qui venait d'être dit, là, tu as le droit de le dire. Il y a quelque chose de génial dans tout ça que je découvrais. Et bon, moi, j'étais là et j'écoutais les histoires. Et tout d'un coup, j'ai sorti mon petit calepin. J'avais un calepin qui était un calepin mémo. C'est grand comme une main, ça tient une poche. Et un petit crayon. Et à un moment donné, il y en a un qui me dit quelque chose et je fais « Ah ouais, attends une minute. » J'ouvre mon calepin. Et je me suis mis à voir ses yeux briller et je réalisais à ce moment-là ce que j'étais en train de lui donner. En prenant une note, eh bien, je donnais l'impression que ça allait aller dans le livre, tu sais, puis... Mais je disais « Ce que tu es en train de me dire est important. » Et en fait, c'était ça, cette démarche-là. C'était de tous leur dire que vos récits, vos histoires, vos petites histoires derrière la grande, en fait, c'est de ce tissu-là, c'est ça votre village. C'est tous ces petits récits-là. On n'habite pas 5000 mètres carrés. Non, on habite les souvenirs qu'on a sur ce coin-là, ce coin de rue-là, c'est là où je me suis fendu sur mon premier bicycle. Ça, c'est notre manière d'habiter un territoire. Et tout d'un coup, on est en train d'y ajouter des étages dessus ou de consolider du moins ceux qu'on a. On est en train de forer par en haut en faisant ça. C'est ce qu'il y a d'à peu près plus durable puis qui donne la plus grande valeur. Tout d'un coup, il y a une municipalité qui prenait le temps de donner de la place à son monde. J'ai été dans une rencontre il y a quelque temps, une espèce de petit forum culturel, et il y a quelqu'un qui a été instigateur d'un festival de poésie à quelque part au Canada. Et il nous partage un peu son expérience sur les difficultés de diffuser de l'art en région, dans des territoires à faible densité. Et il commence sa présentation en disant « Ah, quand je suis arrivé là où je me suis installé, pour ne pas nommer le lieu, il dit il n'y avait pas de culture. » Il a vraiment fallu que je parte de rien, que j'établisse des choses. Moi, je me disais, non, mais merde, t'as trouvé un endroit dans le monde où il n'y avait pas de culture, toi. Toi, t'as réussi à faire ça. c'est qu'on la, on veut pas la voir, cette culture-là. On la reconnaît pas, on lui donne pas ses lettres de noblesse. Je veux dire, la joke de pète puis répète, c'est pas glorieux, mais c'est peut-être la plus grande pièce d'anthologie de toute la francophonie au niveau de la tradition orale. C'est peut-être la chose qui relie toutes les gens qui parlent français, c'est pète puis répète. Qui sait, tu sais. Mais c'est pas glorieux comme histoire, fait qu'on la met de côté, c'est pas une grande œuvre, tu sais. Mais tout d'un coup, je trouvais que ce que Chantal m'abordait pour faire dans la municipalité de Passe-Fabiac était d'une finesse, mais d'un respect pour une dignité populaire. Viens le dire, viens le montrer que le récit sont importants. Et à plein de moments, tu sais, pendant toute la semaine, je retournais les visiter, mes bonhommes, et puis je sortais mon calepin. Puis là, je lui disais, bon, j'ai besoin que vous me validiez ça. Ça, on m'a dit ça. On m'a dit qu'il y avait des sabres mouvants quelque part, c'est-tu vrai, ça? Puis ils partaient tout à rire, mais il y en a qui faisaient, ah ouais, deuxième rang, première rue à gauche. Quoi? OK, on valide. Puis là, ben, ils se remettaient tout à jaser entre eux pendant 20 minutes. Puis il y en a un qui me racontait que oui, il y a un arpenteur qui avait disparu d'un sabre mouvant ou l'urbaniste avait perdu une vache par là. Et ils partent tous là-dessus. Et moi, je me mets à prendre des petites notes. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Où est-ce que je m'en allais avec ça? Ça, c'est le risque des parenthèses. Donner de la valeur, hein? Ça va peut-être être coupé au montage ou pas. Si Tom est vraiment comme lâche sur tout ça, ce bout-là ne sera pas coupé au montage. Ou si ça se trouve, je vais y avoir dit « coupe pas ça au montage, ça va te faire avoir l'air lâche, mais moi, ça va me faire avoir l'air un peu loose, tu sais. Ouais, toujours est-il que, ouais, à chaque fois que je sortais ce petit calepin-là, je venais mettre de la dorure sur les histoires et puis je venais les rendre fiers de leur récit. Je me promenais comme ça dans le village et eux, bon, à chaque jour, ils me validaient ces histoires-là. Des fois, ils y avaient pensé pendant la nuit puis ils faisaient comme « Hey, j'ai pensé à ça, on t'a pas parlé d'un tel ou d'un tel. » Et puis moi, il y a un matin, je me souviens, je suis arrivé puis je fais « Hey, vous m'avez caché quelque chose, vous autres? » Puis ils font comme « Quoi? » Ben là, je lui ai dit le nom d'un bonhomme, puis ils font « Ah, le bandit! » Et les v'là repartis pendant une heure à me parler de ce bandit-là, tu sais. Et ils ont fait eux-mêmes apparaître beaucoup de paramètres à cette collecte-là. Entre autres, qu'il y en a un qui m'a rapidement demandé de ne pas mettre les noms. Hey, « Mais là, ça, tu dis les noms de personne, hein? » Je suis comme « Ah ouais? Ah bon? Ah ouais? » Même si les histoires étaient glorieuses, même si c'est des histoires d'hommes forts ou de je sais pas moi, de guérisseuses ou... Tu sais, exemple, Jean-Paul qui aurait le don d'arrêter le sang. Ça revenait beaucoup, là, mais c'est pas Jean-Paul son nom, mais ça, c'est des gens qui, tu pensais à eux, puis ça a arrêté une hémorragie. Bon, ben ça se peut que tout le monde dans le village pense que Jean-Paul arrêtait le sang, mais si ça se trouve, ses descendants croient pas du tout à ça, puis ils trouvent que ça ternit la mémoire de Jean-Paul que de dire qu'il était à moitié sorcier, tu sais. C'est quasiment vaudou, ces histoires-là. Ça, on m'a demandé l'anonymat des personnages qui étaient dans mes histoires, et puis... Eh bien, ça m'a fait sourire parce que je me disais, ils sont en train de respecter les paramètres de la tradition orale. Que ce soit anonyme, que ce soit le fruit, que ce soit non fixé. Attache ta tuque, non fixé. Attends un peu, on m'a mandaté de venir collecter les histoires. La ville voulait un recueil. C'était ce qui était le mandat. Et je me suis arraché les cheveux dessus à la tête ou du derrière de la tête de ceux que j'ai en me disant, mais qu'est-ce que je fais avec ça? C'est un super contrat, tout ça. C'est pas juste, je veux dire, c'est pas financièrement, mais... Par rapport à ce que j'ai envie de faire dans la vie de mon métier de conteur, ça, clairement, c'est une branche que j'ai envie d'ajouter à ce grand arbre-là, de savoir collecter des villages, que tout d'un coup, je fais plus juste vivre du conte, mais je peux aussi vivre le conte. Tout d'un coup, on vient forer dans des villages, puis on dit « ici, c'est ça qui ont de particulier, là, c'est ça qui ont de particulier ». C'est un inventaire incroyable. Bon, mais malgré tout, eux, ils veulent quelque chose d'écrit. Comment je fais pour que ça respecte l'importance que je donne au fait de ne pas écrire? En même temps, la ville, ils l'ont cherché, ils ont engagé un artiste et non pas un ethnologue. Moi, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un... Ça sera pas... Il ne va pas avoir une liste de dates et puis telle personne a dit dans telle la rencontre. C'est pas scientifique, mon affaire. Non, on m'appelle, moi, je suis un artiste, j'ai une sensibilité et puis elle est légitime. Alors, le fait que je ne sais pas comment fixer ces histoires-là va faire partie de l'équation. Et la seule issue que j'ai trouvée, c'était entre autres de mettre... J'ai mis par écrit, j'ai fait... me confesse, j'ai mis par écrit leurs histoires, mais de manière très succincte. Une histoire qui m'a été racontée pendant 20 minutes, c'est peut-être deux lignes dans le petit livret, où est-ce que je vais dire, il y avait des sabres mouvants dans le deuxième rang, point final. Et puis vous vous raconterez vous-même les 1000 histoires que ça vous rappelle. J'ai envie que ça soit un déclencheur, j'ai envie que ça soit de la poudre à canon, tout ça, mais c'est pas le feu lui-même. Le feu, il brûle encore sur le territoire, il y a encore d'une beauté, mais comment on fait pour le nourrir ou le déclencher à la limite? Alors, moi, c'était beaucoup plus comme ça que je le voyais, comme une espèce de petit livre de recettes pour faire en sorte qu'on ait un prétexte pour se redire nos histoires. Donc, j'ai mis de manière très succincte les histoires, sans mettre le nom de qui que ce soit, mais quand même, tu sais, exemple, il y a un homme fort qui est revenu, il y avait 30 histoires sur cet homme fort-là, eh bien, j'ai mis la première lettre de son prénom. Ça disait pas c'était qui, mais on savait que tous ces récits-là étaient rattachés à un même personnage, tu sais. Et il y avait des personnages incroyables qui ont sorti là-dedans. Et aussi, dans mes autres mécanismes pour protéger un peu le côté tradition orale dans un objet fixé, c'est que j'ai laissé des pages de notes dans le livre pour que les gens puissent y ajouter des notes, pour que ça reste vivant et puis que ça puisse grandir. Et j'ai ajouté des broches à la fin du livre, des attaches parisiennes, des espèces de grands papillons que tu ouvres, puis tu fermes, puis tu faisais des espèces de petits clowns en maternelle qui pouvaient bouger les articulations avec ça. Ta mère l'a eu sur son frigo pendant comme 2 mois, ce bonhomme-là. Attache parisienne, le petit truc doré, là. Donc moi, j'ai mis ça dans le livre pour qu'on puisse y ajouter des feuilles nous-mêmes. Ou en enlever, si tu veux. Si tu veux ajouter une feuille de recette, ajoute-la là-dedans. J'ai pas envie que ce livre-là soit fini. J'ai envie qu'il soit à construire, que ce soit quelque chose de vivant. Et au lancement de la patente, il y avait une 50aine de personnes et il y avait une 50aine de recueils et on leur a donné et on leur a dit, en fait, ce livre-là, il n'est pas à vous. Ben là, il te le dit tout de suite, maudit menteur, tu nous as fait à croire que. Il a dit donner, mais donner, c'est pas donner. En fait, je vous ai dit, c'est pas à vous, c'est à tout le monde. Fait que là, vous l'avez entre vos mains, mais votre rôle, c'est de le passer au suivant. Sinon, pourquoi d'y noter vos propres mémoires dedans si c'est pas pour les passer à un autre? Donc, j'ai envie que ces 50 petits recueils-là circulent dans cette communauté-là de 2-3 000 personnes et qu'ils spinent le plus possible. En fait, pour moi, l'idéal, c'est arrêter d'en faire une seule copie et qu'elles deviennent épaisses, mais dans le temps de le dire, que les pages soient chiffonnées, qu'à page 8 a été mangée par un chien, qu'il y ait du café à page 9, qu'il y ait une couche d'enfant à page 8, que ça devienne le bordel, mais que ce bordel-là représente réellement la vie d'un village. Le compromis là-dedans, c'était d'y aller à 50 et de lui donner envie de faire circuler ce livre-là. Sinon, c'était comme s'il brisait quelque chose, s'il le gardait chez eux. Et pour moi, on se rapprochait d'une version matérielle de la tradition orale. Ça venait la concrétiser. Si tu la gardes chez vous, tu es en train de la tuer. C'est pas fait pour rester en cage, cette petite bestiole-là. Mais tes récits de ton village, si tu les gardes pour toi, tu es en train de pas les nourrir. Alors, il faut que tu les racontes. Et c'est sûr, je repasserai pas aux 10 ans dans ce village-là pour refaire ça. Ils n'ont pas les moyens. Mais, j'espère que ce sera la seule fois qu'on fera cette démarche-là parce que j'espère que un seul coup de crin qu'aura parti ce moteur-là puis que pendant des années, ça va rouler et que peut-être bien que comme projet scolaire en secondaire 5, ils ont décidé de faire 12 pages pour le recueil puis essayent d'en trouver un dans le village puis d'y coller dedans, quoi. Je suis repassé, j'espère recroiser la route d'un de ces livres-là pour voir comment il vit. Et je sais pas où les trouver. Il faudrait que j'aille à Passe-Pébiac, que j'aille au Tim Hortons, puis je demande au gars, n'avez-vous déjà vu un? Y en a-t-il un qui l'a gardé? Y en a-t-il un qui traîne au Subway, quoi? Toujours est-il que j'en ai recroisé un. Donc là, ça fait même pas 6 mois que ce recueil-là a été lancé. Mais je pense que 2 mois plus tard, j'en ai recroisé un au bar ici à Carleton. J'étais dans le bar et puis je vois ça sur le coin du comptoir, puis je fais, hey, mais c'est un des recueils de Passe-Pébiac, ça. Et c'est vrai, c'est là où je voulais m'en aller tantôt. Et souvent, quand je venais les collecter, ils me disaient, hey, ça va être bon ton livre, ça va être bon ton livre, tu sais. Mais je lui disais, mais c'est pas mon livre pantoute, c'est votre livre. Moi, j'ai pris des notes, je suis greffier dans votre affaire. J'ai eu ce talent-là d'aller vers vous puis d'aller chercher vos histoires. Et encore, j'ai pas réussi à atteindre toutes les histoires. Il y a plein de portes qui me sont pas ouvertes parce que j'ai pas su rencontrer certaines personnes ou veux pas, je suis un homme blanc, je suis représentant de ce qu'on voit quand on me voit, tu sais, et ça rejoint pas tout le monde, ça, et on me fait pas toujours confiance quand c'est des humains, quoi. Mais c'était pour moi, c'était leur livre et c'est encore de même que je le perçois. Donc, j'ai vu leur livre sur le bord à Carleton et je me disais, non, ici. Et il était entre les mains d'un gars, de Pascal, qui s'appelle, qui est en train de lire ça, un gars de par ici, et il tripait, et puis il me voit dans le bar, puis il fait « Pat, j'étais en train de lire ça », parce qu'il avait lu la prémisse, parce que pendant une page, j'explique un peu la démarche artistique de la patente. Et il était rendu au mi-temps du livre, et il feuilletait ça. Tu sais, pour moi, c'est un espèce de bon livre de toilette, là. Tu lis une couple de pages, tu redéposes ça là. Fait que il me le passe, tu sais, parce que je voulais voir un peu. Il y avait des annotations déjà un peu partout. J'étais pas capable de lire qu'est-ce qui était écrit là, parce qu'il y en a un qui était droitier sans le savoir, qui avait écrit de la main gauche, clairement. mais il y avait des notes un peu partout, des flèches qui spécifiaient certaines affaires. Et là, il y a une serveuse qui est là, qui dit « Ah oui, je l'ai lu cette semaine, ce livre-là, qui est sur le comptoir. » J'ai dit « Sais-tu qui l'a amené? » Non, il est apparu ici un matin, et puis il fait sa petite vie. Il se promène comme ça. La serveuse, elle dit « Je m'en vais à Montréal la semaine prochaine. » C'est une fille de Montréal, mais qui vit maintenant ici, néo-gaspésienne. Donc, c'est pas une fille de Montréal, c'est une fille d'ici. Grand débat. Ça prend combien de temps avant de venir de quelque part? Toujours est-il qu'elle dit « Hey, je m'en vais à Montréal la semaine prochaine, je vais amener le livre là-bas, donne-moi-les, tu sais. » Et Pascal, il dit « Non, ça reste ici. » Et ils se mettent à s'ostiner pour dire « Ça appartient à qui? C'est où que ça fait du sens, ces récits-là? Hey, non, mais le monde à Montréal, ils vont triper quand ils vont avoir des histoires gaspésiennes, quand ils vont voir un peu qu'est-ce qu'on se raconte. Et puis non, c'est à nous, il faut que ça se raconte ici. » Et puis je me disais « Mais c'est donc bien beau, ça. Moi, j'ai pas envie d'intervenir là-dedans. Je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste deux personnes en train de se demander qu'est-ce qu'ils font de leur patrimoine. Mais quand est-ce qu'on consulte vraiment la population pour se demander qu'est-ce que vous voulez faire de votre patrimoine? On fait que ça, des fausses consultations. On a consulté la population, on a décidé que le projet qui se déroulerait chez vous, ce serait ça. Paf! On vous avait donné le faux choix en deux idées. Tu veux du brocoli ou du chou-fleur pour dîner, tu sais, c'est un choix qui n'en est pas un. Ben, je trouve qu'avec le patrimoine, on fait souvent ça, en fait, avec les projets culturels. Et j'ai trouvé que la municipalité de Passepébiac avait sélectionné un projet. En fait, ils ne l'avaient pas sélectionné, ils l'ont nourri, ce projet. C'est eux qui l'ont fait apparaître, ce projet-là. Mais je trouve qu'ils avaient dirigé une action tellement pertinente puis tellement... qui laisse sa dignité à la culture d'une population. Tout d'un coup, si tu ouvres un théâtre à Passepébiac, ben, tu ne pourras pas dire qu'il n'y avait pas de culture quand tu as parti ton théâtre à Passepébiac, parce qu'on en a fait de l'inventaire. Et moi qui pensais que j'allais avoir 30 pages dans mon petit livre, ben, finalement, il y a eu 87 pages et puis il y a plein d'histoires que j'ai choisi de ne pas mettre parce qu'il n'y avait plus de place, parce que... Ben oui, il y avait encore de la place, mais j'étais tanné. C'est ça que ça a donné, cette démarche-là. Entre autres, je m'étais noté de vous dire ça, dans ce petit voyage-là, à un moment donné, j'avais trouvé ça... pendant que j'étais au Subway, j'avais une tasse réutilisable parce que vous comprendrez qu'il y avait des enjeux au nombre de tasses que j'allais prendre là-bas. Et à un moment donné, j'ose avec un bonhomme et j'enlève le couvercle de plastique sur ma tasse réutilisable. Fait que c'est une espèce de grosse poque noire. Je dépose ça sur la table, tu sais, pour que mon thé refroidisse un peu plus vite. Et le bonhomme, il me dit, en regardant le couvercle noir, il dit « Là, t'enregistres pas ça. » Et je constate qu'effectivement, ça pouvait avoir l'air d'une espèce d'enregistreuse. Il y a des pentures là-dessus, puis tout. Et puis je fais, non, j'enregistre pas. Mais moi, ça se met à virer dans ma tête. Puis je me dis, attends un peu, comment ça, t'enregistres pas? Qu'est-ce que tu me dis? Tu sais que ça s'en va dans un livre. Tu sais que j'enregistre ce que tu me dis. Mais tout d'un coup, j'aime me raconter que lui, il a envie que ce qu'il va me dire va d'abord être contenu dans une mémoire avant d'être posé sur papier. Tout d'un coup, ce qu'il me dit, c'est « Hey, j'espère que tu respectes les paramètres exacts de la tradition, de la transmission orale, toi là. » Il était hors de question. Pour lui, ça allait être un obstacle si entre lui et moi, il y avait une enregistreuse. Il avait envie que l'histoire qu'il me racontait passe d'un cœur à un autre. Et il y a des histoires comme ça qui m'ont été contées. Un autre bonhomme qui me raconte un truc et il devient les yeux tout pleins d'eau et ça parlait de sa mère. Et il me dit, là, tu dis pas de nom. Hein? J'ai dit, oui. Et oui, je dirais pas de nom. Et son récit m'a tellement touché. C'était un récit d'un personnage féminin, mais avec une force incroyable. Mais j'ai choisi de pas le mettre dans le recueil parce que je me disais, ce récit-là est trop précis. Et en fait, ce récit-là mérite d'être dit et non pas d'être écrit. Et en fait, je suis reparti avec ça en me disant, il faut que je trouve quelqu'un qui va porter cette histoire-là. Est-ce que c'est moi? Je sais pas. Et je l'ai raconté une couple de fois. Tu sais, sur le coup, elle m'habitait cette histoire-là. Elle me faisait brailler quand je la racontais parce que fuck, c'est beau. Et puis, un peu plus tard, genre 6 mois après cette démarche... Oui. 6 mois à peu près après cette démarche-là, j'ai croisé une conteuse du côté nord de la Gaspésie, une fille qui s'est mise à pratiquer le conte. Et en voyant comment elle comptait, eh bien, après son compte, je suis allé la voir, puis j'ai dit, Camille, qu'elle s'appelle, j'ai dit, Camille, je pense que j'ai une histoire pour toi. Et puis elle m'a regardé, puis elle a souri. Et elle est au début de sa pratique, et je pense que ça l'interpelle, cette notion-là de se transmettre des histoires plutôt que de les chercher dans des livres. Et ça m'a plu parce que Elle a souri. Et effectivement, je me disais, c'est une histoire qui irait bien parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu punk dans sa manière de conter. Et il me semble que ce serait un récit incroyable par sa manière de conter. Elle m'a regardé et elle m'a dit, parfait, j'irai te la chercher à un moment donné quand je serai prête. Wow, mais moi, j'ai envie de cette magie-là. J'ai envie que tu ne me la ramasses pas dans un centre d'achat, ce conte-là. Non, tu feras toi aussi le pas de traverser à Gaspésie, prendre rendez-vous avec moi et puis on prendra rendez-vous avec cette histoire-là. Et peut-être bien même qu'on ira sur place là-bas ensemble pour que je te la raconte. On en fera un voyage de cette histoire-là. Et puis toi, après, tu raconteras ce que tu veux. Si tu veux, tu garderas juste le personnage ou rien en tout. Mais ce sera ce genre d'aventure-là. Et ça m'a tellement touché de voir que, en fait, d'être en contact avec la démarche d'une autre conteuse qui allait dans le même sens que la mienne. Et ça a été un plaisir de découvrir ça. Ah oui, je voulais pas oublier de vous dire ça. Là, je parle tout le temps de mes bonhommes qui me contaient leurs histoires, mais à un moment donné, on m'a parlé d'un groupe de tricot. Et je me dis, ah tiens, des bonnes femmes. Alors, parce que c'est facile de juste prendre la maudite parole des hommes parce qu'on parle donc bien plus fort partout. Et puis, donc, comment tu fais pour aller chercher une parole féminine également? Et puis, ben, je suis un gars. C'est plus facile pour moi d'aller vers des hommes. On m'accorde plus facilement la confiance. Je pense qu'on se confie plus facilement à moi quand on est un homme que quand on est une femme parce qu'il y a une complicité. Et puis là, je généralise, mais en tout cas, c'est mon constat. Alors, on parle d'un groupe de tricot. Les mardis après-midi, ils sont au centre culturel puis ils tricotent. Fait que go for it. T'sais, moi, je note ça dans mon petit agenda. Et puis, ça tombe deux fois dans mon horaire. Parce que je suis là 10 jours et puis c'est deux fois. Je recroise cette date-là et je suis tout content. Je vais rencontrer les femmes une première fois. Ils viennent juste de commencer leur atelier. Et je dis « Bonjour, bon, je viens collecter des histoires. On m'a dit que vous étiez ici. Est-ce que je peux m'installer avec vous? » Et puis la dame qui organise le truc, on est dans une espèce de grande salle commune dans le hall d'entrée du centre culturel de Passepebiac. C'est tout vitré, c'est tout beau. Il y a des petits fauteuils et puis ils ont mis des tables pliantes au centre. Et ils ont rassemblé plein de chaises autour de ça. Alors je dis « Est-ce que je peux m'installer avec vous? » Puis il y a déjà 4-5 femmes qui sont là, mais il y a encore de la place pour au moins le double. Et la dame, elle me dit « Ouais, tu peux t'installer là. » Et puis du nez, elle me pointe une chaise, mais qui est loin, là. Mais qui est à des kilomètres de le petit cercle. Elle dit « Tu peux t'installer là puis nous écouter. » Et tout de suite, elle me met à part. Alors moi, je joue le jeu, je m'installe sur la chaise, je la prends où ce qu'elle est, puis je sors mon petit calepin, puis j'attends. Je suis cette espèce de petit voyeur qui par la fenêtre, surveille, et puis la femme explique au groupe un peu ce que je fais ici. Et quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, elle leur explique qu'il y a Patrick qui est là. Et au bout de peut-être 20 minutes, tu sais, ça parle, ça tricote, ça jase du tricot, ou ça raconte des trucs desquels je suis pas au courant. Alors, il me manque les référents, donc c'était plus ou moins intéressant pour moi. Une telle vient d'avoir son petit, ou je sais pas quoi, tu sais. Et puis, à un moment donné, je me sens à part, tu sais, je sens que je suis en train de passer à côté de ce que je souhaite ici. Je sens que je suis pas légitime d'intervenir puis de diriger un peu l'entrevue, si on veut, tu sais. Je dis, ça vous dérange-tu si je vais me chercher un crochet pour tricoter moi aussi? Parce que moi, je sais tricoter au crochet. J'ai appris ça, je sais pas, quand j'avais... ça part, 18 ans. Quand j'avais 18 ans, j'ai appris à tricoter. Puis j'ai bien aimé ça. Ça m'a fait triper. C'est comme de la soudure, mais avec du fil. Ça me prend un passeport pour être légitime en tant qu'homme et de faire... Je sais pas faire de soudure, mais... Ouais, ça me plaît bien le tricot. Je le pratique pas tous les jours, mais tout d'un coup, je suis donc bien content de savoir tricoter, tu sais. Alors, je dis ça, on est au début de l'activité, ça fait peut-être 20 minutes que je suis là, une demi-heure sur une activité de 3 heures. Je peux-tu aller me chercher un kit pour tricoter? Tricoteuille, je viens encore de Québec dans cette phrase-là. Et ben non, à Québec, on dit pas ça de même. Mais non, il y a personne qui a d'accent nulle part. Surtout pas dans les grandes villes. Et je dis ça, je vais aller chercher un crochet pour tricoter. Et il y a une femme qui dit... Ah ben, ouais, moi, je serais pas mal plus à l'aise que tu sais là si tu tricotais avec nous. Et là, je fais, OK, bon, j'embarque dans mon char puis je m'en vais me chercher un crochet au Dollarama, tu sais. C'est vraiment un épisode où je plug tous les commerces de Passepebiac. Désolé à ceux qui auront été mis aux oubliettes. Et en me rendant à aller me chercher mon crochet, ben, en fait, je réalise que cette femme-là disait tout à fait juste. Il me fallait ma légitimité dans cet espace-là pour pouvoir m'immiscer là. Et elle avait cerné qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Tout à fait, il y avait quelque chose de décalé dans ma présence-là. J'étais une espèce de petit scientifique dans le coin qui rendait le moment beaucoup moins authentique. Je n'avais pas ma place. Mais je vous jure que quand je suis revenu avec mon petit crochet, ben, c'est sûr que là, il n'y a plus personne qui tricotait. Tout le monde riait en me surveillant. Et puis... Il tricote pour vrai, ben oui, il tricote pour vrai. Et puis, ben, j'ai gagné ma place tranquillement, pas vite. T'sais. Puis pendant une heure, je parlais plus, j'écoutais pas. Ben, je faisais juste écouter, puis essayer d'avancer ma tuque le plus vite possible pour les impressionner. Puis il était impressionné, puis c'était vrai. Puis à un moment donné, la madame qui gère la petite patente, elle vient voir mon tricot, puis elle me dit « Ah, ça, t'as pas fait ça comme faux. » Et puis on remontait de trois rangs, fait qu'elle me détricote de trois rangs. Et puis il y a toutes les autres qui rient autour, puis là, je les menace de les détricoter elles aussi. Puis, bref. On a une connexion. Et là, tout d'un coup, je suis beaucoup plus légitime et j'ai le droit d'intervenir, j'ai le droit... En tout cas, je me sens le droit d'intervenir puis de dire, ben, vous, connaissez-vous des remèdes de grand-mère, des trucs imaginaires? Y a-t-il des maisons hantées ici? Y a-t-il des sages-femmes légendaires dans le village? Et on a cette proximité-là qui se met à permettre à ce genre d'informations-là de circuler beaucoup plus librement. Un peu de la même manière que si on avait passé 8 semaines ensemble, et bien tout d'un coup, paf, on a le raccourci qui nous permet de... On a ri ensemble, et là, on peut s'échanger des récits qui sont vrais, des histoires de sages-femmes qui impliquent aussi des histoires de fausses couches, mais c'était dans leur famille, et puis on a vraiment cette transmission sincère-là et authentique qui a eu lieu grâce au crochet, qui est le passeport du compteur maintenant. Alors, voilà le genre de petites péripéties auxquelles je me suis exposé. Et pour ceux qui seraient intéressés à voir ce recueil-là qui a été fait, eh bien, bonne chance. Non, en fait, il y en a une version sur mon site web, lapetitegreve.com, sous l'onglet « Collecte », dans Chronique de faits d'hier. J'ai appelé le recueil, je l'ai intitulé « Ce qui dépasse », parce que je trouvais que c'était ce qui dépassait d'un village, c'était nos histoires qui dépassent de nos vies aussi, là où on devient nous-mêmes légendaires peut-être, tu sais. Bon, et donc il est disponible en PDF, c'est plate à manipuler, et je vais être bien franc avec vous, c'est le souhait. J'ai envie que ce soit plate à manipuler, parce que le vrai livre, le fun à manipuler, ben il est dans le village. Bonne chance pour le trouver. Ces histoires-là sont à eux. En tout cas, ils sont dans ces livres-là. Puis sinon, ben, allez vous acheter un café, puis allez dire bonjour. Puis venez leur dire que leurs histoires sont importantes au point d'avoir fait en sorte que vous avez envie de les entendre. Ça finirait bien, hein, cet épisode-là. Si on coupait là, au montage, là, comme il y a une mesure passée. Merci. Vous écoutiez « Il était une fois dans l'Est », une production de La Petite Grève. Le titre original est de Alexandre Gauthier, la musique originale de Guillaume Arsenault. À la co-animation, Marianne Boudreau, au montage, Thomas Wadam Gagnon. Et à tout le reste, ben, moi-même, Patrick Dubois. Cette production a été financée par La Petite Grève, ainsi que la MRC Avignon et Boralex.